À moins que. Bon, voilà. Hein. Alors, normalement, ça nous dit quelque chose. OK? Le prophète Jérémie parle de la foi et prend l'image, celle que nous lisons ensemble. Celui qui met sa confiance, sa foi en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Le psalmiste ajoute, en mettant à l'honneur la Bible, la parole de Dieu, il dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la Bible, et la médite jour et nuit. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme, cette femme, réussit dans tout ce qu'il fait. » Ézéchiel va évoquer la présence de Dieu et va utiliser cette image-là. Près du torrent, sur ses rives, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leur fruit ne s'épuisera pas. Chaque mois, ils produiront de nouveaux fruits parce que l'eau du torrent sort du sanctuaire. Il est question de la présence de Dieu, imagée par un fleuve. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Pour vous récapituler, on est dans cette série de « Chrétien, tu es comme un arbre ». Donc, à toutes les belles plantes qui se sont retrouvées être un arbre, nous avons vu ensemble que porter du fruit, c'était une nécessité. Sur la terre, si tu ne portes pas de fruits, si tu es un arbre décoratif, je ne dis pas la suite, si ça vous rappelle des choses, Jésus a maudit un arbre qui ne portait pas de fruits. Chrétien, tu es comme un arbre et on a vu que le fruit que tu devais porter, premièrement, c'est celui de la repentance. Il manifeste des choses, les autres en sont témoins. Quand je suis vraiment repentant, mon cœur change, mes habitudes changent, mes réflexes changent, mes pensées sont régénérées. La repentance, je ne reviens pas sur ce message. Je vous ai mis les dates si vous voulez reprendre toute la série, hein, je sais que ça date un peu. Mais comme tu es comme un arbre, Dieu t'invite à produire non pas le fruit de la chair, mais le fruit de l'esprit. Amen. Et c'est pour ça qu'il est important que les racines de l'arbre tirent vers la rivière qui sort de la présence de Dieu, ce sanctuaire-là. Amen. Alors on peut se poser la question, si je manifeste le fruit de la repentance et celui de l'esprit, c'est bon. Je suis un bel arbre. Oui, tu es un bel arbre. Tu es une belle plante. Quel fruit pouvons-nous encore porter ? Alors pour introduire ce message, parce que oui, il y a encore d'autres choses à dire sur l'arbre qui porte du fruit, mais c'est quand même un message de clôture, j'irai pas plus loin dans cette série. Jean 15, verset 16. Jésus qui dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. » Je relis cette introduction de verset. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi. » C'est Jésus qui parle. « C'est moi qui vous ai choisi. » Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit, et du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Alléluia. Ah ben non, si tu spoiles les images avant que j'arrive dessus, ils ont déjà rigolé, c'est pas normal. Vous n'avez pas été attentif, je relis le verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Dans le contexte de ce passage, il est question d'amour fraternel et d'amour de mon prochain, quel qu'il soit. De celui qui aurait la même foi, mais aussi de celui qui se ferait mon ennemi. Dieu m'invite, au sein même de ce texte, à mettre par-dessus toute motivation l'amour de mon prochain, l'amour de mon frère, de ma sœur, dans ce mandat que Dieu nous octroie. Et quand Dieu dit « Je vous ai choisi pour porter du fruit », il donne déjà la direction. Il te dit déjà le fruit, il n'est pas pour l'arbre. Est-ce qu'on peut afficher du coup l'image qui suit, s'il te plaît ? Si je vous montre cette photo, cette image, générée avec intelligence artificielle, vous vous doutez bien, je ne suis pas allé dans un verger et je n'ai pas pris cette photo-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ? Alors déjà qu'un arbre ait des dents, je vous l'accorde. Des yeux, un nez, ok, des bras. On fait abstraction de ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène ? L'arbre qui est manifestement un pommier, il fait quoi ? Il mange son fruit. Êtes-vous choqué ?
Wow.
Si ? Avez-vous déjà vu un arbre manger son propre fruit ? Ok, bon, ça va, ça me rassure, on vit sur la même planète. Ok. Dieu t'a choisi pour être un arbre qui porte du fruit. Vous avez dit Amen tout à l'heure. Alors, non, non, non. Non, Dieu ne s'est pas trompé au casting. C'est lui qui t'a choisi. Non, tu n'es pas trop petit pour porter du fruit. Cette grande tâche qui est de gagner ce monde, de bénir mon prochain, de prendre soin les uns des autres, Dieu nous l'a offerte à tous. C'est Dieu qui nous a choisis. Et quand il, dans un autre passage qui va relater cette même parole de Jésus, Dieu parle d'équipement. Il dit voilà, je vous ai choisi, je vous ai établi. C'est-à-dire je vous ai donné l'armure, l'équipement nécessaire qu'on retrouve dans Éphésiens 6, mais ce n'est pas là le sujet ce matin. Non, tu n'es pas trop petit, pas trop faible. Non, tu n'es pas une erreur au casting de Jésus. Il t'aime comme tu es. Et c'est comme tu es qu'il va te transformer pour être un arbre qui porte du fruit. C'est lui qui t'équipe et qui te guide pour mener cette vie de témoin. Amen. Mais là, on est face à un dilemme. Si je manifeste le fruit de la repentance, si je manifeste le fruit de l'esprit, ben c'est bon quand même. C'est surnaturel. Ben, j'aimerais être le premier profiteur de ce fruit-là. Ben, vous, vous ne dites pas ça, vous êtes trop spirituel. Mais humainement, c'est comme ça qu'on réagit. On est comme cet arbre. On veut manger notre propre fruit. Humainement, nous vivons pour nous-mêmes. Et même quand on est altruiste, on veut s'accomplir et s'épanouir personnellement. Même quand on est spirituel, on a des actes de générosité désintéressée, éparse, avec cette pensée sous-jacente qu'on ne va pas s'avouer, mais je vais le dire tout haut. J'espère qu'il n'oubliera pas ce que j'ai fait pour lui. Vous êtes spiritualisé. Moi, c'est des choses que j'imagine dans ma tête. Non, la vérité, c'est que Dieu nous a choisis et nous a envoyés pour aimer cette terre, pour aimer notre prochain. S'il t'a choisi, établi, il a racheté ton âme, si tu es passé de la mort à la vie, c'est pour porter le fruit de la repentance, le fruit de l'esprit, que tu n'es pas un arbre, que tu ne sois pas un arbre semblable à celui que tu vois derrière moi. C'est pas ça la mission de Dieu. Le fruit de l'esprit, le fruit de la repentance, oui, plaît à Dieu. Alléluia. Et Dieu se réjouit des belles pommes qui sont sous tes branches. Alléluia. Mais on peut se poser la question. As-tu oublié de produire ce fruit-là ? Quel est ce fruit ? Ben dans ce passage, Jésus met le focus sur les âmes. Et la question, c'est, chrétien, toi qui es un arbre, portes-tu le fruit des âmes ? Est-ce que tu as le fardeau des âmes ? Est-ce que ce que ta vie produit est de manière désintéressée pour ton prochain ? Est-ce que tu as à cœur le salut des âmes ? As-tu à cœur la maturité du chrétien qui est assis à côté de toi ? As-tu à cœur l'épanouissement de ton église ? Est-ce que tu vibres pour ce qui fait vibrer le cœur de Dieu ? Parce que c'est ça qui fait vibrer le cœur de Dieu. Ce qui passionne Dieu, c'est de voir des âmes passer de la mort à la vie et de voir une église établie, forte, qui rayonne de la lumière de Jésus. Mais sans être chacun un arbre fruitier qui porte le fruit des âmes, ben c'est le pasteur local, c'est le conseil spirituel qui va avoir cette charge-là. Dieu n'a jamais établi un système pyramidal dans l'église. C'est pas non plus une démocratie, l'église. C'est une théocratie. Dieu est à la tête. Jésus est la tête de l'église. Et de manière équitable, homogène, responsable, Dieu nous a donné chacun de prendre part à notre mission comme un corps, une cellule, un organe. Dans le corps, il y a l'organe, il y a les cellules. Chacun a sa place, bien coordonné, nous dit la parole. J'aimerais relire Jean 15 avec vous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous demanderez en mon nom. Je vous ai donné mission d'aller. Quel est le passage qui fait écho à cette parole de Jésus-Christ ? Alors, si vous avez besoin d'une anti-sèche, vous regardez juste au-dessus de la carte, au fond. Alors, pas 26. 28. Allez. Je vous ai donné mission d'aller. Allez donc parmi toutes les nations faire des disciples. Alléluia. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples. Parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir. Amen. Allez. C'est le verbe du dynamisme, c'est le dynamisme de Dieu dans Actes 1-8. C'est ce qui provoque le mouvement, c'est ce qui provoque l'activité. Non pas l'activisme, mais l'activité produite du Saint-Esprit qui est en moi, qui m'amène à bouger dans mes lignes, qui me fait sortir de ma zone de confort et qui m'amène à regarder non plus à moi, mais à lui, celui qui est en face de moi, celui que je croise chaque matin, celui qui est membre de ma famille et de ma famille spirituelle. Mais regardez le parallèle. Jésus a dit « Je vous ai donné mission d'aller » et de porter du fruit qui soit durable. Jésus a dit, allez donc dans le monde et juste parlez-leur de moi. Faites-leur connaître le nom de Jésus. C'est ça qu'il dit ? Non. Ça, c'est la base. Comment seront-ils des disciples s'ils n'ont pas rencontré Jésus et pas entendu son nom ? On est d'accord, mais est inclus dans faire des disciples, partager la bonne nouvelle. Alléluia ! Témoigner de ce que je vis avec Jésus. Simplement, est-ce que tout le monde autour de moi sait que j'appartiens à Jésus ? Ça, c'est le point initial. Mais Dieu ne nous appelle pas juste à être des proclamateurs de la bonne nouvelle. Il nous appelle à être des faiseurs de disciples, des maîtres pour des gens qui ne sont pas maîtres, de ceux qui ont besoin d'être des disciples. Jésus n'est pas venu simplement annoncer, donner sa vie sur la croix. Il a formé des disciples. Pendant 3 ans, et bon, ils avaient besoin de prolongation, puisque voilà, à un moment, ils sont tous partis, ok ? Certains ne l'ont pas reconnu, certains ont douté de leurs propres frères, ils se sont comparés. Ah oui, bah oui, bah c'est un petit peu l'Église aujourd'hui, en fait. Allez ! La première des choses que Jésus dit dans ce texte est à l'impératif. Allez donc ! Le donc fait écho au verset précédent, et où Jésus dira « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est-à-dire que le mandat, il n'est pas « bon ben voilà, nous on est une église de Pentecôte, on s'appelle l'église Horizon, et puis on y va, on bombe le torse, et puis ça suffit ». Non, c'est selon l'autorité, le pouvoir que Jésus nous donne, le mandat que Jésus nous donne. On ne s'envoie pas nous-mêmes. Personne ne s'autoproclame quoi que ce soit dans l'église. C'est Jésus qui appelle, c'est Jésus qui équipe, c'est Jésus qui mandate. Mais il dit « allez » et il donne une direction dans le monde. Jésus ne nous a pas dit que nous étions comme ce monde, mais il nous a dit de demeurer dans ce monde pour faire briller cette lumière. Et il nous a dit une chose dans ce monde, faites des disciples. Ce monde a besoin de connaître Jésus. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le nom de Jésus ? Normalement, j'ai 100%, parce que ça fait déjà 10 fois que je dis le nom de Jésus. Donc au moins, même si vous ne connaissiez pas, tout le monde a entendu parler de ce nom maintenant. C'est acté, ok. Mais Jésus n'a pas juste dit, faites-leur connaître mon nom avec ses 5 lettres. Il a dit, faites-en des disciples. Comment on fait ? Vous êtes tous des enseignants ? Vous êtes tous formateurs ? La vérité, c'est non. Mais Jésus nous a quand même dit de faire des disciples. Bah, Seigneur, il y a des pasteurs pour ça, c'est bon. Et non, on a déplacé la religion dans la religion évangélique. Hein. Le pasteur, ce n'est pas celui qui convertit, qui amène les âmes à être des disciples. Le pasteur, c'est celui qui rend chacun d'entre vous capable de le faire. Ça, c'est son rôle. Éphésiens nous le dit. Il le dit, Éphésiens 4, 11, nous sommes les pasteurs, les ministères locaux, nous sommes juste des articulations. Pour ceux qui ont mal aux articulations, vous savez combien c'est important d'avoir des articulations, ok ? Hein ? À la hanche, les coudes, ok ? Les doigts, ok ? C'est difficile, un corps sans articulations. Et c'est indispensable d'avoir des articulations pour que les mouvements soient coordonnés. Et ce ne sont ni les ministères, ni le CS qui sauvent Colomiers et l'île Jourdain. C'est vous, c'est nous. Et Jésus a dit, allez donc, et il nous donne un ordre établi. Baptisez-les et apprenez-leur. Ouais, mais le baptême, ça, c'est les pasteurs qui baptisent. Faux, aucune preuve scripturaire là-dessus. C'est les enseignants qui doivent enseigner. Faux. Jésus n'a pas dit d'enseigner, même si c'est le même verbe, mais il demandait un apprentissage pédagogique, quelque chose de comme un maître et un disciple marchent ensemble et ils s'imprègnent. Comme un berger va sentir la brebis, il y a cette proximité-là. Ça, c'est ce que tu dois, là où Dieu t'a placé, là où tu habites, là où tu travailles. Tu dois sentir, on doit sentir que tu œuvres, tu transpires pour l'œuvre là où Dieu t'a placé. Moi, je ne peux pas agir dans le garage de Michael. Si, je vais amener faire ma révision, ok. On glissera quelques mots, Jésus t'aime, on essayera. Mais le témoignage de Michael, je ne peux pas l'avoir à sa place. Je ne suis pas mécanicien là-bas et chef d'atelier. Vous voulez d'autres exemples ? Non, je ne vais pas vous afficher tous. Je parle des impôts. Non, pas à chaque prédication quand même. Le baptême nous parle d'engagement. Nous avons besoin non pas juste de témoigner en disant « voilà, Jésus t'aime ». Et puis nous évader en disant « voilà, j'ai donné mon témoignage ». Non, nous devons apprendre à aimer le nom de Jésus-Christ. Jusqu'à l'engagement du baptême. Jusqu'à ce que toutes les âmes autour de moi soient de ceux qui aiment le nom de Jésus et qui veuillent à leur tour le suivre. Et après, il y a l'apprentissage de l'obéissance. Mais c'est vrai que quelqu'un qui naît de nouveau, il n'a pas tout compris. Quelqu'un qui arrive dans l'église, qui j'aime Jésus, j'ai envie de m'engager dans les eaux du baptême, ce n'est que le commencement. Peuple de Dieu, avons-nous la tolérance nécessaire pour accueillir les gens qui n'ont pas tout compris ? Sommes-nous assez ouverts et aimants pour accueillir les familles disloquées, décomposées, recomposées, fois 3, fois 10, avec des gens qui ont changé de sexe, des gens qui ont des aspirations sexuelles contraires à la parole ? Sommes-nous assez ouverts pour les accueillir tels qu'ils sont et pour les amener à être des disciples ? À ce qu'eux, à leur tour, vivent aussi la transformation que nous avons vécue avant ? Avons-nous cette patience, cette tolérance ? Comme un parent va apprendre à son enfant à obéir, ce n'est pas inné l'obéissance. Je dirais ce qui est inné, c'est la révolte. Et en plus, on est français. Alors, vous rappelez de l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure ? J'aimerais vous en montrer un deuxième. C'est l'image d'après. Voici un arbre qui porte du fruit. Qu'est-ce qui change entre ces deux images ? Il donne, ok. Il est en marche. Ah, il est un peu moins enraciné sur sa numéro de chaise. Okay. Il est en marche, ok. Il est heureux. L'autre aussi était heureux de manger son fruit. Hein. T'as pas vu, il dégoulinait et tout tellement il était content de manger son propre fruit. Il n'est pas tout seul. Qui est autour ? Des oiseaux, ok. Les oiseaux, est-ce qu'ils ont l'air... ils ont l'air heureux, les oiseaux. Il y a même un oiseau qui a pris une pomme. Ok ? Ça, c'est l'image de l'arbre que nous devons être de manière individuelle et en église. Tu dois être un arbre en mouvement. Paradoxal, je veux bien te l'accorder. Un arbre en mouvement qui a arrêté de s'enraciner dans le confort de sa vie chrétienne et qui est en mouvement, qui obéit à aller. Un arbre qui porte du fruit pour des petits oiseaux. Un arbre qui accueille. Il n'est pas en train avec ses branches, l'arbre, non, mais laisse-moi tranquille, tu manges mes fruits. Il n'y en a pas assez pour tous les autres oiseaux. Non, il ouvre, il sert de nichoir, il sert de nourriture. Mon frère, ma sœur, est-ce que c'est ta prière ce matin ? Est-ce que c'est ta prière ? Laisse-moi. Pourquoi j'ai généré cette image-là ? C'est parce qu'elle m'a fait penser à cette parabole que Jésus va évoquer dans Marc 4, et j'aimerais le lire avec vous. Jésus continue en disant « À quoi pourrions-nous encore comparer le règne de Dieu ? Par quelle nouvelle image pourrions-nous le représenter ? Tenez, il en est de lui comme un grain de moutarde. Lorsque vous le jetez en terre, c'est la plus minuscule des semences du monde. Mais une fois semée, elle monte et devient plus grande que toutes les autres plantes. L'arbre du Cénevé, c'est une plante. Et en Orient, il peut monter jusqu'à 3 mètres de haut. Je vous laisse imaginer une plante de 3 mètres. Elle pousse des rameaux si grands que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. cette petite, minuscule, insignifiante graine jetée en terre s'élève à plus de 3 mètres, à des rameaux tellement grands, tellement espacés, que les oiseaux peuvent s'y nicher et créer l'ombre nécessaire pour permettre l'accueil des oiseaux. Ce texte nous montre la puissance de l'Évangile. Je ne sais pas s'il y a un faible commencement dans ton cœur. Peut-être qu'il y a des gens, ils sont qu'au début de la foi. Et tu as l'impression que dans ton cœur, c'est tout petit. Laisse la puissance de l'Évangile agir dans ton cœur. Peut-être qu'à tes yeux, l'Église, ce n'est pas très grand. Peut-être que ton témoignage, il n'est pas très grand. Ce qui est valable pour l'Évangile est valable pour ta vie. Parce que si l'Évangile, elle veut dépasser et n'a pas son pareil sur la terre, ta vie n'a pas son pareil sur la terre. Tu es unique et c'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est comme ça que Dieu veut se servir de toi. Amen. L'Évangile dans ton cœur, comme cette semence plantée dans une bonne terre, sera cet arbre qui accueille tous les oiseaux environnants. Mais regardons ce qui a été dit dans ce verset. Ce qui est promis. Un arbre comme cette semence-là, toute petite, l'Évangile apporte l'ombre en période d'aridité. La sécurité, l'espace, les rameaux assez grands pour accueillir et la nourriture. Est-ce que tu voudrais être cet arbre qui est rafraîchissant pour celui qui est dans l'aridité de ce monde? Peut-être là, tu es en train de te dire, oui, mais moi, pasteur, j'aimerais qu'on prenne soin de moi. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est en prenant soin des autres que Dieu opérera la guérison dans ton cœur et dans tes pensées. On attend toujours de guérir pour donner. Et si on essayait d'adopter la logique de Dieu, c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en offrant qu'on reçoit. Le Seigneur veut t'offrir une guérison, oui, mais tu n'es pas prêt à donner parce que tu ne te sens pas capable. Peut-être ton âge, peut-être ta santé, peut-être tes préoccupations, la cellule familiale. Sois l'ombre, sois élargis ton cœur et accueille pour offrir l'ombre, un rafraîchissement dans l'aridité de ce monde pour celui qui est autour de toi. Apporte la sécurité, témoigne du salut, de l'espérance que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Il est celui qui change et transforme les vies, la puissance de l'Évangile. Oui, elle est folie pour ceux qui périssent, mais elle est une assurance, une gloire pour ceux qui ont cru. Alléluia, tu es porteur d'une semence incorruptible, ta vie changée, transformée, le monde en a besoin. Est-ce que les gens à ton contact se disent, lui il a un espoir dont j'ai besoin? Et est-ce que ta vie est une nourriture? Comme le petit lait pour l'agneau, comme une graine, un fruit pour l'oiseau qui viendrait se percher. Alors je te pose la question, j'arrive bientôt à ma conclusion. Quel arbre veux-tu être? Je sais, vous dites, non, mais c'est tellement logique comme choix. C'est un choix surnaturel, mon ami. C'est un choix qui doit être posé par un acte, une intention, de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour mon prochain. Je vis pour celui que... auprès duquel je m'assois depuis des décennies, mais je ne sais même pas ses combats et je prie même pas tant pour elle. C'est mon frère, ma sœur qui est dans l'épreuve. Est-ce que je suis ému de compassion à porter ses fardeaux? Tous ces inconnus qui sont autour de moi, vais-je m'investir dans leur vie? Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux être cet arbre qui accueille, qui élargit l'espace de Satan, qui élargit son cœur, qui met les priorités du royaume des cieux comme sa priorité. Mon frère, ma sœur, peut-être tu trouves ça trop caricatural, mais j'ai vu beaucoup trop de chrétiens vivre pour eux-mêmes. Beaucoup trop de chrétiens me dire, pasteur, j'ai pas le temps de faire telle ou telle chose parce que j'ai d'abord mes affaires. Mon frère, ma sœur, tu inverses les processus divins. D'abord les affaires du roi des rois. Et tu auras plus de temps encore pour tes propres affaires. Ton argent, confie-le au roi des rois. Et c'est une... Ah, on n'aime pas trop l'évangile de la prospérité, on fait attention à ce qu'on dit. Je suis d'accord, je suis contre ces pensées tordues que si tu donnes, tu auras plus. Mais il y a quand même X versets qui montrent qu'en donnant pour le royaume des cieux, Dieu permettrait qu'on ne manque de rien. Et même Dieu parle de greniers abondants. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu. Paul a appris à vivre dans la disette. Et on vit très bien quand on est au SMIC. Mais Dieu a ses plans à lui. Et je ne les connais pas. Et je ne veux pas faire une promesse, si tu donnes, tu auras plus. Mais si tu donnes, tu réjouiras déjà le cœur de Dieu. Ton temps, ta santé. Tu dis, voilà, là, t'es au top de ta vie. J'ai plein de choses à faire. Je vais voyager, je vais faire des sports extrêmes, je vais prendre le temps de, voilà, là, je peux tondre ma pelouse, là, je peux bricoler, là, je vais mettre mon énergie, là, alors que je peux. Et puis, je verrai à la retraite, quand je serai croulant à 65 ans. Ça, ils réagissent pas, bon. Si vous êtes d'accord avec ça, moi, je trouve pas. Hein. La retraite, c'est là où vous avez plus d'activité encore qu'avant le mode du travail. Bref, non. Qu'est-ce que tu retiens, en fait ? À chaque fois que nous retournons, nous sommes comme cet arbre qui mange son propre fruit. On retient les primeurs, les années fraîches, on retient notre santé, on retient notre argent, on retient notre temps pour nous, alors que Dieu nous demande de voir à l'autre. Comment je peux investir pour le royaume des cieux en m'investissant dans la vie des autres ? C'est là la question. Et je termine avec une dernière lecture dans un texte qui a bouleversé mon cœur. Je pensais faire un appel à la consécration. C'était clair dans ma tête. Seigneur, et puis le Seigneur m'a conduit à un temps de restauration. Je ne sais pas pourquoi. Ben, si, parce qu'on en a besoin. Mais ce n'était pas ça le cœur de mon message. Et Dieu l'a changé parce qu'il connaît ce dont vous avez besoin plus que moi. J'aimerais lire avec ce texte et qu'on puisse avoir le temps de laisser infuser dans nos cœurs. Ézéchiel 17. Plus de quasi 600 ans avant la venue de Jésus, Ézéchiel va dire ceci. Voici ce que je déclare, ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je prendrai moi-même un rameau tendre de la cime du cèdre élevé et je le mettrai en terre. Je couperai un tendre rejeton du haut de ses branches et je le planterai moi-même sur une très haute montagne. Je le planterai sur une montagne élevée d'Israël. Il étendra ses branches et il portera du fruit. Et il deviendra un cèdre magnifique. Est-ce qu'il y en a qui aspirent à être des cèdres magnifiques ? Toutes sortes d'oiseaux habiteront dans sa ramure. Ils viendront nicher à l'ombre de ses branches. Alors, tous les arbres de la campagne reconnaîtront que moi, je suis l'Éternel, qui abaisse l'arbre élevé et qui élève celui qui était abaissé, qui fait sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, je le déclare, je le ferai. Je le ferai. Oui, tout ce texte nous parle de Jésus. Chaque détail nous montre l'œuvre de la croix, où c'est le point de départ pour notre espérance. Chaque détail de ce texte est une déclaration d'amour de Dieu pour ta vie. En disant, ce que j'ai fait par Jésus-Christ, je le fais dans ta vie maintenant. Tous les arbres de la campagne reconnaîtront que moi, je suis l'Éternel qui abaisse l'arbre élevé et qui élève celui qui était abaissé, qui fait sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, je le déclare, je le ferai. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Si tu peux m'afficher la dernière diapo, Caroline, s'il te plaît. Peut-être tu te sens petit, pas à la hauteur de la tâche, en disant, mais gagner le monde, il est fou ce pasteur. Vous auriez raison. Il est fou. Il espère. Il veut être revêtu de cette folie de Dieu qui est plus sage que la sagesse des hommes. Et peut-être tu te sens petit. Et à chaque fois que tu te regardes, à chaque fois que tu prends en compte ce que tu as entre tes mains, tout est petit. Et en plus, on est français, on prend le petit café, tout est petit. On regarde toujours au petit. On regarde toujours à ce qui est négatif. On regarde toujours à ce qu'on n'a pas. Dans le petit, peut-être tu es trop jeune. Peut-être dans le petit, tu n'es pas très riche. Peut-être dans le petit, tu n'as pas une bonne santé. Le petit est appelé à grandir. Et Dieu a dit, je le ferai. Peut-être tu as été abaissé, les épreuves de la vie, des paroles désobligeantes, des maladresses, ça t'a blessé, tu as été abaissé. Peut-être on t'a ignoré, peut-être tu n'as pas été aimé à la mesure dont tu espérais être aimé. Et tu as été comme écrasé, abaissé. Tu as dit qu'il relevait celui qui était abaissé. Parce qu'il a dit, je le ferai. Peut-être tu te sens sec. Tu as été abîmé par la vie. Peut-être tu as été cassé, brisé. Et quelque chose qui est brisé, cassé, devient cassant et coupant. Tu te sens acerbe, amer, sec. Peut-être ce sont les années au compteur qui te sent être sec. Tu dis, mais je n'ai pas la sève d'un jeune arbre. Je suis comme une vieille branche. Tu as dit, ce qui est sec, je le ferai reverdir. Je le ferai. C'est là la promesse de Dieu. Je ne sais pas ce qui est devant tes yeux, je ne sais pas toutes les pensées qui bousculent ton être, mais rappelle-toi que Dieu a dit, je le ferai. Est-ce que tu crois que c'est une parole sur ta vie, pour toi maintenant? Est-ce que tu le crois, mon frère, ma sœur? Et j'aimerais te dire que même si tu ne le crois pas, dis à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Je ne sais pas quel moyen tu vas utiliser. Je ne sais pas sur quel aspect. Peut-être qu'il y a tous les aspects qui t'ont bouleversé ce matin et tu ne sais même pas comment faire. Fais confiance au Seigneur. Il a dit, je le ferai. Il va le faire maintenant. Et j'aimerais que l'équipe de louanges se réinstalle et ils vont nous accompagner dans un musical premièrement. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de restauration pour tous ceux qui sont petits, abaissés et secs. Tous ceux qui se sont reconnus dans ces paroles-là. Tous ceux qui désespérément cherchent à servir Dieu, désespérément cherchent à donner un sens à leur vie. J'aimerais te dire, Dieu le fera maintenant. Il veut élever, faire grandir celui qui est petit. Il veut relever celui qui a été abaissé. Il veut reverdir celui qui est sec. Je ne connais pas les besoins de ta vie, mais Dieu les connaît parfaitement. Rien n'est caché devant ses yeux. Alors que la musique commence, j'aimerais simplement inviter tous ceux qui seraient dans le besoin de prière, les petits, les abaissés, les secs, à venir sur le devant. Et avec le conseil spirituel, on va prier pour vous, afin qu'au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ce qui a été petit grandisse d'un coup. Ce qui a été abaissé soit relevé. Ce qui est sec soit reverdi au nom puissant de Jésus. Parce que c'est une promesse pour Dieu. De Dieu pour toi. Une promesse de Dieu qui s'accomplit maintenant dans ce temps de prière. Si vous êtes reconnu, levez-vous, ne tardez pas, venez-vous. On va se placer sur toute la longueur et on va recevoir cette bénédiction, ce temps de rafraîchissement, ce temps de consécration. Je crois certainement qu'il y a aussi ce temps de consécration. Peut-être quelqu'un va dire, voilà Seigneur, je t'abandonne toutes mes priorités, tous mes projets, je les abandonne. Viens sur le devant, le Seigneur va faire reverdir ce qui a été asséché par la vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Un temps de restauration pour ta vie. Un temps de rafraîchissement. Qui en a besoin? Venez, mettez-vous sur le devant. Restez pas dans les allées, dispatchez-vous. Jésus. Jésus. Oh les chamatiali, elle est soude, le kaït, elle est soude. Oh Jésus. Oh Seigneur. Les petits, les secs, les abaissés. Dieu, tu veux en prendre soin. Ce qui est petit aux yeux de ce monde, Seigneur, est grand pour toi, Seigneur. Et ces petits, ceux qu'on a oubliés, tu en as fait de grands guerriers, Seigneur. Ce David s'est oublié même de son propre père. Dieu, tu l'as élu pour devenir roi. Ce petit agriculteur, même pas dans l'école des prophètes, ce jeune Élisée labourant le champ de son père, c'est toi qui es allé le chercher par le prophète Élie. Cette petite esclave, arrachée de la vie de ses parents, arrachée de son pays, tu t'en es servi pour sauver le général de l'armée syrienne. Les petits, Dieu voudrait les faire grandir. Et je ne sais pas ce qui te bloque et ce qui t'empêche de venir sur le devant. Et j'aimerais te dire que le complexe d'infériorité, l'apitoiement sur ton sort, ne te fera pas goûter à la grâce de Dieu. Mais si ce matin tu reconnais que tu es petit, abaissé et sec, alors Dieu te transformera en cèdre magnifique. Maintenant, Saint-Esprit, tu agis. Saint-Esprit, tu agis. Seigneur, tu agis maintenant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Reçois maintenant. Reçois. Reçois maintenant. Sois restauré. Relevé. Oh, reçois maintenant. Cette sève nouvelle, ce vin nouveau qu'on nous dit la parole. Cette puissance de vie qu'est l'Évangile, qui guérit ton corps malade, qui libère les captifs, les chaînes tombent, ceux de la dépréciation, ceux de l'humiliation. Peut-être tu as été victime de mots toute ton enfance. On t'a dit que tu étais un bon à rien. C'est faux. Jésus veut se servir de toi maintenant. Mais viens à lui tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Oh shamalakan yalelelelelelele sura baba baba yedesu. Demande-le au Seigneur. Demande-le au Seigneur. Oh shelelelelele kuru baba 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 yesu de lolo. Oh shenyelelelelelele kuru baba baba la kolle kadyelelelele komnyala sunyala la sunyala sonda. Reçois, reçois, reçois maintenant. Saint-Esprit, tu coules. Peut-être quelqu'un n'a pas été baptisé de l'Esprit. Et depuis tant d'années, tu le demandes, reçois-le maintenant. Commence à parler en langue. Oh Jésus, tu viens poser ta main. C'est toi qui fais ton œuvre. Saint-Esprit, tu lèves une armée pour le roi des rois. Une armée de proclamateurs de l'Évangile. Une armée qui forme des disciples, des maîtres pour d'autres disciples. Oh Jésus, viens maintenant. Viens maintenant, Saint-Esprit, viens. Oh, chère Baba, la cagnelelelelelele. Toi qui es venu sur le devant, commence à parler à Dieu, si ce n'est pas déjà le cas depuis tout à l'heure. Demande à Dieu maintenant d'enlever ses complexes d'infériorité. Peut-être c'est un handicap, peut-être c'est une infirmité, et tu ne vois que ça. Tu ne regardes qu'un défaut de ta vie. Mais comme c'était charte dans la chair de Paul, Dieu va manifester sa gloire quand même. Reçois cette parole sur ta vie. Jésus. Peut-être quelqu'un a été abaissé. Dieu va te relever maintenant. Oh Jésus. Oh les kamaniata la yadelelelelelele. Saint-Esprit, mets ton baume. Saint-Anne, tu me l'as promis de restauration. Viens restaurer les cœurs brisés. Viens relever le faible. Oh Jésus, amène le petit à regarder au grand nom que tu lui donnes. Fils et fille du Dieu très haut, co-héritier, co-héritière avec Christ, concitoyen du ciel. Mon fils, ma fille, dans la bouche de Dieu. Le petit est grand ce matin. Restaure les cœurs. Mets ton baume, Seigneur. Oh Jésus. Commence à parler au Seigneur. Ferme tes yeux, parle-lui, parle-lui. Ce n'est pas un homme qui te donne la restauration. Ce n'est pas un pasteur, ni un conseil spirituel, ni une ambiance qui crée dans ton cœur quelque chose, une émotion. Non, c'est par la foi. Tu t'es approché maintenant, tu reçois. Dieu te donne la guérison pour ton esprit malade. Peut-être c'est la colère, la rancune qui te gangrène. Dépose cela au pied de la croix. Jésus. Vous tous qui êtes restés dans les rangs, quoi, élevez votre voix aussi. Prenez part à cette victoire. Regardez, soyez émus de compassion. Jésus voyait les foules venir à lui et était ému de compassion. Soyez émus de compassion pour tous ceux qui se sont approchés, qui ont besoin du soutien dans la prière de l'Église. Commencez à intercéder. pour leur guérison, pour leur restauration, pour leur équipement surnaturel. Saint-Esprit, tu agis maintenant. O katabate abalabala yesude. Ô Jésus, ô Jésus, alléluia, son échappe. Si le Seigneur a commencé une œuvre dans ton cœur, commence à lui dire merci. Sois reconnaissant ce matin pour la douceur de Dieu sur ta vie, qui te donne un nouveau départ, une seconde chance, qui vient révéler les choses cachées. Jésus, oh, bénis le Seigneur, que l'Église soit reconnaissante, que les enfants de Dieu disent merci à leur papa dans le ciel. Jésus. Oh, le Seigneur est grand. Et ce n'est que le commencement. On va dans cette continuité de reconnaissance et en même temps de cette œuvre de restauration. Nous rappeler, pour ne jamais oublier, ce que Jésus a fait à la croix. J'inviterai bien sûr mes sœurs et mes frères à venir sur le devant pour servir le pain et le vin. Et on va être dans la continuité, on reprendra ce chant, c'est à la croix. Parce que c'est là où tout commence, c'est là aussi où nous avons besoin de revenir régulièrement pour déposer les fardeaux qu'on aurait pris en trop, ce que Dieu ne nous demande pas de porter, lui déposer. Et j'aimerais qu'on puisse le faire avec une attitude de reconnaissance et dire: Seigneur, ce que je veux ce matin, c'est pas non plus prendre le pain et le vin parce que c'est un emblème obligatoire dans le culte. C'est: je veux me souvenir. Si Jésus nous a dit faites ceci en mémoire de moi, c'est qu'il connaît notre faculté à oublier. Vous croyez pas? Alors on va se souvenir de lui dans un temps de reconnaissance, un temps de célébration. C'est un temps de joie de prendre la Sainte Cène parce que c'est un temps de victoire. Alors c'est vrai, le Seigneur nous a donné plein d'imprécations à ne pas faire attention, à ne pas avoir un jugement contre soi-même, faire attention au non-pardon et toutes ces choses-là. Mais je crois que le Saint-Esprit révèle les choses au cœur. Amen. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre ce pain et ce vin avec reconnaissance ce matin. De ce que le Dieu de toute consolation a commencé son œuvre. Amen. Et il l'amènera à son terme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Christelle, tu pourrais prier ? Au nom de tous, s'il te plaît. À suivre Jésus. On a pris l'engagement du baptême, amen. On se rappelle que c'était le point de départ de la course, cette persévérante course à suivre et obéir à Jésus-Christ. Et prenons ce pain et ce vin avec reconnaissance, avec victoire. La table de toutes les bénédictions est dressée devant nous, en face de l'adversaire. Nous, on est du bon côté. Alléluia! On est du côté de celui qui a remporté toute victoire. Amen.